Vous êtes sur RTL.
RTL Soir avec Stéphane Carpentier.
Le plaisir de retrouver Éric Brunet dans RTL Soir le vendredi pour les temps forts de la semaine. Éric et sa liberté de parole. Bonsoir à vous.
Bonsoir Stéphane.
Votre semaine commence à lundi avec le journal Le Monde qui a publié des extraits d'un livre accusant le politologue Olivier Duhamel d'inceste.
Oui, inceste. Pour moi, Stéphane, cette histoire n'est pas à proprement parler un inceste, puisqu'il est question d'une liaison entre un enfant et son beau-père sans aucun lien de sang. Moi, je parlerais plutôt de viol pédophile. La pédophilie touche malheureusement tous les milieux, la famille, l'église, l'enseignement, le sport. Le problème, et c'est pour ça, à mon avis, que le mot a du mal à être prononcé à propos de cette affaire, c'est que la pédophilie a longtemps bénéficié d'une relative tolérance dans certains milieux de la gauche libertaire. Après mai 68, des intellectuels l'ont même justifié au nom de la révolution sexuelle. Après avoir libéré la femme, eh bien, il fallait libérer l'enfant, et je cite, éveiller sa sexualité. Rappelons-nous que dans les années 70, plusieurs écrivains ont fait ouvertement l'apologie de la pédophilie. Gabriel Matzneff avec son livre « Les moins de 16 ans », mais aussi Tony Duvert, René Scherrer, Guy Hockenheim. En 77, de nombreuses personnalités de gauche ont signé une pétition dans Le Monde, où écrivait d'ailleurs Gabriel Matzneff, en soutien à des personnes inculpées pour avoir eu des relations sexuelles avec des adolescents de 13 et 14 ans. À la même époque, des intellectuels de gauche, parmi lesquels Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Foucault, ont signé un manifeste demandant l'abrogation de la loi sur la majorité sexuelle et la dépénalisation de toutes les relations consenties entre adultes et mineurs de moins de 15 ans. Ce phénomène n'a pas été circonscrit à la France. Jusqu'au milieu des années 80, les Verts allemands, les Grünen, avaient dans leur programme la dépénalisation des relations sexuelles entre adultes et mineurs, Stéphane. Ben moi, j'espère que cette affaire, en tout cas, nous permettra de faire enfin notre devoir d'inventaire, car ce sont, on le sait tous, des milliers de vies qui ont été à jamais brisées.
Des révélations qui vous font réagir, Éric Brunet. C'était mardi, le site Politico nous apprenait que le gouvernement avait fait appel à un cabinet de conseil américain, McKinsey, pour l'aider à organiser sa campagne de vaccination contre le virus.
Assez énorme, un cabinet de consulting américain qui remplacerait nos hauts fonctionnaires, notre administration, la plus chère du monde d'ailleurs, et nos énarques. À gauche, on a déploré un abaissement de l'État, et puis à droite, Xavier Bertrand a fustigé une faute gravissime. D'ailleurs, McKinsey, il faut le dire, a été désigné cette année comme le meilleur des cabinets de conseil mondiaux. On a appris en plus que trois autres sociétés privées de conseil ont été sollicitées, toujours pour aider la France à organiser sa stratégie de vaccination. C'est surtout une nouvelle illustration de la totale inefficacité de l'État, franchement. L'État obèse, toute notre bureaucratie. Premièrement, ben on paye des impôts pour financer notre administration, la Haute Autorité de Santé, l'Agence de Sécurité du Médicament, les agences régionales de santé, sans parler de tout le reste. Et deuxièmement, double peine, nous payons ces cabinets privés qui font le travail que les agences de l'État n'arrivent pas à faire. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les entreprises privées sont plus efficaces que l'État. On le dit pas assez, mais lors de la pénurie de masques et de gel hydroalcoolique au début de l'année, ce sont des boîtes privées comme Decathlon, LVMH, qui sont venues à la rescousse de l'État et ont débusqué, payé, distribué, parfois gratuitement, des millions de masques aux citoyens français. Si on avait confié, je le pense, hein, la campagne de vaccination à des pros de la logistique comme Auchan, Intermarché ou Leclerc, je suis certain, Stéphane, qu'on aurait évité ce fiasco.
Autre sujet qui vous fait réagir, Éric, c'était mercredi, la Fondation Jean Jaurès et Charlie Hebdo ont publié une enquête sur les contestations de la laïcité à l'école.
Oui, terrible enquête. 53% des enseignants de collège et lycée disent avoir déjà eu ou vu des élèves contester un enseignement au nom de la religion. Et c'est pas tout. 6 enseignants sur 10 ont également observé une forme de séparatisme religieux, l'absence de jeunes filles au cours de natation, le refus d'entrer dans des églises lors de sorties scolaires, la contestation de repas de Noël et de la galette des rois. Au moment des cérémonies à la mémoire de Samuel Paty, près d'un enseignant sur 5 dit aussi avoir observé des élèves qui refusaient de participer à l'hommage, qui justifiaient la violence, qui faisaient de la provocation pendant la minute de silence ou qui proféraient des injures. Un chiffre qui monte à un tiers dans les quartiers prioritaires. Plus inquiétant encore, la moitié des profs interrogés avouent s'être déjà auto-censurés dans leurs cours pour ne pas provoquer de possibles incidents. Mais il faudrait aussi que les profs puissent compter sur le soutien de leur hiérarchie. Cette semaine, au collège des Batières à Lyon, un prof d'histoire-géo a été verbalement agressé devant l'établissement par un parent d'élève qui remettait en cause le contenu de ses cours et l'accusait de propos islamophobes. Eh bien, le prof a porté plainte et que s'est-il passé ? Eh bien, le rectorat l'a tout simplement affecté dans un autre établissement. Détail aggravant, c'était juste le collège où Samuel Paty avait commencé sa carrière d'enseignant.
Et puis Eric, impossible de passer à côté de l'actualité américaine. Évidemment, c'était mercredi, le Capitole envahi par des partisans de Donald Trump pour empêcher les parlementaires de certifier la victoire de Joe Biden. 4 morts, Eric Brunet.
4 morts et des images hallucinantes, dignes d'une république bananière, comme l'a dit George Bush, l'ancien président républicain. Trump peut redouter une chose, c'est que l'histoire ne retienne de son mandat que cette fin pathétique. En politique, on se souvient souvent des fins de mandat. Nixon a été l'un des plus populaires présidents américains, mais il restera pour toujours associé au scandale du Watergate. Et puis Giscard d'Estaing en France, on ne retient plus guère que les images un peu ridicules de ses adieux télévisé, vous savez, avec le « au revoir ». Trump aurait pourtant pu s'enorgueillir d'un bilan économique acceptable. Donc tout ça était plutôt bon, sans parler de ses succès politiques sur le plan international, et notamment la normalisation des relations entre Israël et de nombreux pays arabes. Mais en s'entêtant à ne pas reconnaître sa défaite, attitude qui a conduit ses partisans déchaînés à envahir le Capitole, eh bien Trump a fait un sacré cadeau à Joe Biden. Biden, le plus vieux président de l'histoire des États-Unis, que les Américains trouvent peu charismatique, même ennuyeux, appelé à ne faire qu'un seul mandat pour lequel beaucoup ont uniquement voté pour faire barrage à Trump, eh bien Biden apparaît désormais comme le garant de la démocratie et le grand pacificateur des États-Unis. Le discours qu'il a prononcé mercredi m'a fait penser à celui qui a réconcilié l'Espagne avec la monarchie. Allez, souvenez-vous, petit retour, 40 ans en arrière, on est en 1981, ça fait à peine 6 ans que Franco est mort et que Juan Carlos a été couronné. Le nouveau roi d'Espagne n'est pas très populaire, mais le 23 février 1981, des officiers nostalgiques du franquisme prennent d'assaut les Cortes, vous savez, l'Assemblée espagnole à Madrid, et tentent de faire un coup d'État. Des coups de feu sont tirés dans l'Assemblée et les députés s'allongent au sol. Et à 1h du matin, Juan Carlos intervient à la télévision avec son uniforme de capitaine général des armées. Il s'oppose au coup d'État, il défend la Constitution, il ordonne à l'armée d'apporter son soutien inconditionnel au gouvernement démocratique et relève de ses fonctions le général putschiste. Quelques heures plus tard, c'en est fini du coup d'État. Ce roi qui était effacé, pas très charismatique, change de visage. Il devient l'homme qui a sauvé la démocratie. La gauche républicaine espagnole lui en sera à jamais reconnaissante. Stéphane, sur ce point, eh bien Joe Biden, c'est le Juan Carlos de Washington.
Voilà tout.